instant, l'heure de se mettre à table, c'est sur Radio Marseillette avec les auberges rurales et gourmandes dans le pays d'Aude. Bonjour à toutes et tous. Bon, ben c'est sous la neige. Hein.
Oui.
On va se mettre à table.
À glagla.
Mais sous la neige, c'est en train de tomber. Alors, je ne sais pas du tout au niveau du département si...
Oh, mais déjà, tout l'est audois, dans le Lauragais, justement, à partir de Bram, derrière, c'est renvahi de neige. Et donc là, apparemment, ça arrive.
Bon, panique à bord ou quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On fait l'émission quand même.
Oh bah oui.
Bon, ça tombe bien parce qu'on a du monde, alors ça serait sympa. Et vu ce qu'on vous a concocté aujourd'hui, il y a tout intérêt à ce qu'on puisse faire l'émission. Puisque je reçois aujourd'hui, alors, Jean-Pierre Lauré, donc qui nous présentera une chouette balade à faire du côté de Cabrespine, notamment le gouffre et les grottes de Limousis. Et on va commencer tout de suite avec l'auberge du Dominicain. J'accueille aujourd'hui un petit peu son taulier, donc André Horta, et puis sa fille qui est donc au fourneau et qui va nous présenter aujourd'hui. Alors si j'ai bien compris, il s'agit d'un cassoulet, mais on va dire royal.
Oui.
Ouais, on peut modestement dire que c'est le cassoulet royal. Donc à vos stylos, puisque vous allez pouvoir maintenant noter non seulement les ingrédients, mais aussi la recette à la façon de l'auberge du Dominicain, qui se situe donc à Montréal, en sachant toutefois que dans la matinée, en fin de matinée ou dans l'après-midi, la recette sera évidemment téléchargeable, que ce soit papier ou alors si vous voulez la réécouter sur l'agenda culturel de nos campagnes. C'est diffusé sur le site de Marseillette dans la journée. On attaque ?
Allez, c'est parti.
Alors, pour faire... Bonjour Barbara.
Bonjour.
Je vous ai pas présenté, j'ai présenté papa, mais j'ai pas présenté sa fille. Deux fois qu'on a... ça fait deux fois à l'antenne qu'on a un père et sa fille, finalement. Le duo en cuisine a l'air de bien fonctionner, puisque d'après ce que je lis, on va se régaler. Alors Barbara, un cassoulet royal à l'auberge dominicaine, comment ça se...
Alors déjà, je vais donner les ingrédients.
Ouais, c'est le mieux.
Ça serait pas mal. Donc, il faut des haricots lingots. Ensuite, il faut un oignon avec piqué de deux clous de girofle, une carotte, un bouquet garni, bien sûr du confit d'oie ou de canard, bien sûr, un jarret et épaule de porc coupé en morceaux et bien sûr de la saucisse.
Bon, avec ça déjà,
voilà.
On a les bons ingrédients de base, en sachant qu'ils sont aussi, en tant que labellisés auberge et pays Qatar, on ne peut penser que tous ces produits-là sont un petit peu labellisés aussi.
Ah, bien sûr.
Déjà, d'entrée rien qu'avec les ingrédients, on va se régaler. Je vous écoute.
Alors, après avoir trempé préalablement quelques heures les haricots lingots dans de l'eau froide, les faire blanchir 5 minutes dans l'eau bouillante. Dans un pot appelé loulo.
C'est quoi?
Alors, c'est une cassole. Voilà, en gros, c'est... Voilà. À la base, une houlo, c'est ce qu'on mettait, vous savez, au coin du feu, quand on faisait chauffer,
un
vous
peu,
savez.
Les casseroles un peu bombues, un peu émaillé orange.
Voilà,
ça y est, ça me rappelle des souvenirs.
Je ne savais pas qu'on les appelait comme ça.
Eh bien, moi non plus, tu vois, comme quoi.
Et voilà. Alors, dedans, donc, on cuise les coins coupés en morceaux assez larges. Pas trop fin, hein. Il faut quand même qu'il y ait des bons morceaux de coins, ça donne du goût.
D'accord.
Voilà. Un oignon piqué, donc, de deux clous de girofle. Une carotte. Et un bouquet garni. C'est tout.
Donc les lingots, ils vont mijoter, cuire là-dedans, dans cet appareil-là. D'accord.
Ensuite, il faut délayer une pommade composée de lard et d'ail finement haché. Alors, si vous avez un petit récipient, comment on appelle ça, le pilon.
Voilà.
Vous prenez le pilon et vous le travaillez comme ça.
Ça sert comme un genre de pâte.
Une pommade. Voilà,
d'accord.
C'est ça. Alors ensuite, il faut plonger les haricots tièdes. Et laisser cuire 2 heures environ à très faible ébullition pour conserver les haricots parfaitement intacts. Parce que sinon, ils explosent et c'est pas bon.
Ça fait de la purée. D'accord.
Ensuite, il faut dégraisser les confits d'oie ou de canard dans une poêle et y faire rissoler jarret et épaule de porc coupées en morceaux. Voilà. Ensuite, vous videz alors dans la cassole. Alors, la cassole, c'est cette... comment on appelle
c'est
cette terrine, vous savez.
Un peu évasée.
Voilà. C'est une cassole qui vient du Mas Sainte-Buelle, exactement.
On reste local,
hein.
Très très local, le but du jeu.
Oui.
C'est vraiment le but, c'est bien.
Donc on vide dans la cassole une couche de haricots, Ensuite, par-dessus, une assise de viande.
Alors, en fait, parce que c'est technique,
on met de la viande par-dessus.
Voilà, donc en fait, c'est pas. On va étager, c'est une recette un petit peu, voilà. J'allais dire des lasagnes, mais c'est pas le.
C'est pas tout ça.
Oui, mais le. Il y a André qui me regarde. Non, quand même.
C'est pas ça. Le principe, on va dire, c'est un peu comme ça.
Voilà, c'est par étage. Voilà.
Ensuite, donc, on recouvre avec une couche de haricots. Et en spirale par-dessus, légèrement enfoncé, on met la saucisse. Voilà. Qui avait été revenue à part. Donc, en roulé ou en morceaux, comme vous préférez. Et ensuite, on arrose toute la surface avec le jus encore bouillant, recueilli dans la poêle et le plat.
Donc, vous recouvrez par-dessus. Le confit, éventuellement, un peu de bouillon, mais ce qu'on a.
Mais le jus qui a été de la viande rissolée.
D'accord.
Voilà, vous le mettez par-dessus. Et ensuite, cette cassole, on la met au four. Et ensuite, il y a une croûte qui va se former. Et on doit, dès qu'il y a une croûte qui se forme, on la crève. Et la tradition veut qu'on crève la croûte 7 fois. Voilà.
Ah, d'accord, c'est comme un rituel.
Voilà, ça c'est le cassoulet.
Donc on aura là un cassoulet royal, comme si on venait à l'auberge.
Exactement.
Du Dominicain.
Exactement.
Et justement, moi j'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur cette auberge du Dominicain. Et là, je regarde André, le papa, mais aussi le taulier, mais pas que. Puisque au niveau de l'association des auberges rurales et gourmandes en pays Qatar, je crois que vous avez un petit peu un pied dedans, on va dire.
Je suis coprésident.
Vous en êtes juste le coprésident. Et à ce titre, j'ai entendu parler que la semaine prochaine, vous allez remettre la plaque des auberges rurales et gourmandes en pays Qatar à l'auberge de la Garrigue, si mes souvenirs sont
corrects. À Saint-Pierre-sur-Mer.
À Saint-Pierre-sur-Mer. Donc une de plus qu'on certainement on recevra nous aussi. Dans la saison.
Certainement.
Donc c'est vous qui allez être chargé d'organiser la cérémonie. Bon alors, votre auberge là, du Dominicain à Montréal, expliquez-nous un petit peu son histoire, comment, depuis combien de temps, ou quand, comment.
Ben écoutez, l'auberge du Dominicain à Montréal, je vais la situer et puis je voudrais vous dire surtout que c'est l'auberge du Dominicain depuis 20 ans. Mais sous l'appellation Auberge de la Tête Noire, c'est un établissement qui a été créé en 1907, donc on est plus que centenaire dans la poursuite de l'activité.
C'est un joli anniversaire.
Alors nous avons donc voulu, nous, quand nous l'avons pris il y a 20 ans, nous associer un peu à l'histoire du pays et en la dénommant, Auberge du Dominicain, en raison de l'histoire locale qui a fait que Saint-Dominique, à l'époque du catharisme, Dominique Guzman, un évêque espagnol, s'est installé à Prouille, où il a créé l'ordre des Dominicains. Il a prêché pendant des années pour l'église de Rome et contre les cathares qui étaient installés dans le pays. Donc Saint-Dominique est étroitement lié à l'histoire locale de Montréal et de Fanjeau notamment, donc d'où le nom de Auberge du Dominicain.
Et, voilà. Et pourquoi elle s'appelait l'auberge de la Tête Noire? Alors, avant, quel était le...
Écoutez, au-dessus de la voûte principale de l'auberge, il y a une tête de nègre, hein, donc d'où la tête noire, qui sert de clé de voûte et qui serait là depuis la construction de la bâtisse. Voyez. Donc,
il y a certainement une relation à une histoire ou un symbole quelconque de cette époque.
Le fait qu'il y a cette tête noire, cette tête de nègre, il paraît qu'elle a été récupérée au monastère de Prouille, qu'il y en avait une autre qui aurait été récupérée ailleurs à Montréal, mais je ne sais où. Et puis, comme il n'y a pas beaucoup de survivants de l'époque,
ouais, donc on peut pas vraiment
en connaître plus. Voilà.
Alors vous avez préféré vous remonter un petit peu le temps et l'associer à quelque chose dont on connaît un petit peu plus.
Voilà l'histoire.
L'histoire. Alors, l'auberge du Dominicain. En gros non, parce qu'on peut on pourrait en parler des heures, mais qu'est-ce qu'on y sert principalement? Bon, j'imagine que la spécialité, c'est peut-être le cassoulet royal que vient de nous indiquer Barbara, mais bon,
oui, le cassoulet est effectivement l'emblème du Lauragais, puisque nous sommes déjà, on a un pied dans le Lauragais. C'est notre adresse d'ailleurs, c'est 14 avenue Loraguet à Montréal.
Donc avec ça.
Donc nous nous situons à 17 km de Carcassonne sur la route de Montségur. J'utilise ce terme parce que en relation avec les bûchers de Montségur et le catharisme, puisque nous sommes dans le pays cathare, ouais. Autant associer les mots qui conviennent. Donc, on passe à Montréal de l'Aude, au pied de la collégiale, sur la promenade ombragée, dans un ancien affenage, c'était ça à l'origine. Hein. Donc, moi-même, mon épouse Isabelle et mes filles, Barbara, ici présente, et Hélène, qui n'est pas là, mais qui est...
qui œuvre aussi.
Qui œuvre aussi dans notre établissement. Nous avons le plaisir de vous accueillir donc dans un cadre agréable. Je vous laisserai tout à l'heure d'ailleurs.
Mais je l'ai un peu lu. Voilà. Juste envie d'y aller.
Dans cette auberge au charme rustique et authentique, vous pourrez y déguster au gré des saisons les meilleurs produits des terroirs de l'Aude, pays cathare. Au travers d'une cuisine familiale et de tradition, vous découvrirez des recettes locales et ancestrales accompagnées des meilleurs crus de la région. Il en est ainsi du cassoulet de Castelnaudary qui s'inscrit dans les routes gourmandes du pays cathare. Pour se conformer au terroir et à la tradition, il faut une cassole, cette poterie locale du Lauragais, et avant tout le choix du haricot, le lingot de préférence. Les exigences de la charte qualité signée par les restaurateurs membres de la route du cassoulet de Castelnaudary, dont l'auberge dominicain, garantit la provenance des produits qui ont servi à l'élaboration du cassoulet, en l'occurrence celle du haricot de Castelnaudary marqué pays cathare, en même temps que l'usage de la cassole, poterie traditionnelle du Lauragais.
À ce sujet, la cassole, est-ce qu'on ne cuisine que le cassoulet dans la cassole ou est-ce que vous l'utilisez pour d'autres...
La tradition veut que ce soit le cassoulet, bien sûr. Mais après, rien ne nous interdit de faire autre chose, bien sûr, à l'intérieur. Parce que c'est de la terre cuite,
donc un contenant
qui passe très bien au four, oui. Où on peut mettre des plats gratinés dans la même cassole que le cassoulet. Il n'y a pas de contre-indication. Alors, l'auberge du Dominicain, il faut savoir, organise régulièrement des stages de cuisine afin d'apprendre les véritables secrets du cassoulet de Castelnaudary, dont la recette vous a été déclinée tout à l'heure.
Et c'est Barbara, c'est toujours en famille que les cours de cuisine se passent.
Voilà. C'est ma maman qui donne les cours.
D'accord. La fameuse grande timide dont on a, voilà, dont on entend beaucoup plus parler.
On la voit pas beaucoup, mais elle...
On aurait bien aimé l'avoir avec nous aujourd'hui, mais enfin bon, moi, l'extrait que j'ai à ma gauche relève largement le défi, ça va très bien, mais on la salue également.
Elle écoute peut-être, je ne sais pas, si elle a trouvé le bon.
Voilà, mais si vous avez internet, je suppose, je vois qu'elle elle pourra réécouter l'émission sans souci, à loisir. Et les cours de cuisine se déroulent.
Alors, les cours de cuisine sont initiés par la route du Cassoulet, qui est une des routes du pays cathare, chapeautée par le comité départemental du tourisme, et nous, la route du Cassoulet, nous sommes rattachés à l'office de tourisme de Castelnaudary et du Lauragais. C'est donc l'office de tourisme qui communique les stages de cuisine. Nous sommes, je crois, 14 restaurateurs du Lauragais qui adhéreront à la démarche des cours de cuisine. Nous en avons fait 6 cette année. Et nous sommes toujours partants pour en faire d'autres. C'est sous le couvert de l'Office de tourisme de Castelnaudary.
Qui après établit un calendrier en fonction des disponibilités de chacun. Et donc ça se passe, je veux dire, en cuisine, sur le lieu, en cuisine. J'imagine qu'il y a peut-être une dégustation une fois.
Disons que les participants au stage de cuisine emportent le cassoulet qu'ils ont préparé eux-mêmes avec ma femme en cuisine. Donc ils le dégustent chez eux.
C'est carrément emportable. C'est d'autant mieux. Qu'est-ce qu'on pourrait encore
Je ne voudrais pas qu'on oublie non plus le duo de talent que constituent les vins de la Malepère.
Voilà, c'est là où on voulait en venir.
Ça et le cassoulet de Castelnaudary.
Qu'est-ce qu'on voit finalement? C'est vrai, parce que bon, c'est quand même un plat maître, c'est quand même un plat plein de goût. Donc on se dit, on aurait tendance à être un petit peu effrayé quant à l'association avec un vin sur un plat aussi puissant.
Écoutez, nous avons fait un choix à l'auberge dominicaine et je recommande très particulièrement l'AOC Malepère du domaine Rose et Paul, dirigé par Gilles Foussat à Arzens. Gilles représente la cinquième génération de vignerons de la Malpère, ayant succédé à Rose et Paul Foussat, en devenant acteur et en créant ses produits à l'image de sa personnalité. L'engagement de Gilles Foussat se fait sur le terrain et sur votre table.
Bon, qu'est-ce que là-dedans, j'allais dire, bon, tout est dit, mis à part que, évidemment, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, donc à consommer avec modération, ça n'en rend la dégustation que meilleure. Donc, on a un cassoulet, moi je vous dis royal, c'est comme ça que je l'ai eu en tête et je persiste à le dire, et avec la dégustation d'un AOC Malpère, donc on reste toujours, et c'est le but du jeu, très local avec ce genre d'association. Je rappelle l'auberge du Dominicain à Montréal, 14 avenue du Lauragais, ouvert tous les jours sauf le lundi soir.
Voilà. Nous sommes fermés le lundi soir et les 10 premiers jours d'octobre. Si vous me permettez 10 secondes.
Oui, allez-y.
Je voudrais indiquer que dimanche, après-demain, le 5 décembre, l'auberge du Dominicain servira à l'occasion du marché de Noël à la salle polyvalente de Montréal. Un dérivé, on va dire, du cassoulet, puisqu'il s'agit encore de haricots, mais avec la fricassée du pays Qatar.
Didier.
Voilà. On m'a entendu, j'avais le micro
ouvert. Bon, alors vous êtes un petit peu présent, on va dire, acteur local pour œuvrer en matière de patrimoine, de transmission de patrimoine, également d'une halte touristique, parce que bon, le tourisme, c'est aussi la table.
Et je suis président de l'Union des commerçants et artisans de Montréal.
Mais vous, qu'est-ce que vous n'êtes pas? En fait, c'est ça. Il faudrait demander qu'est-ce que vous n'êtes
je
pas.
Je me pose la question de temps en temps.
Puisqu'on a parlé un peu rugby tout à l'heure, vous avez été longtemps secrétaire.
J'étais tout dans le rugby à 13. Tellement tout que un jour, la saturation est arrivée. Mais je n'ai pas oublié et je n'ai pas renié le rugby à 13.
Je crois que quand on est dans le cœur, c'est à jamais. Hein, j'ai l'impression.
Tout à fait.
Je rappelle rapidement vos coordonnées. L'auberge du Dominicain, 14 avenue du Lauragais à Montréal, 04 68 76 31 10. Il y a un site internet, je l'ai, peut-être que je vais l'écorcher. Oui. Là, ça c'est le, voilà, c'est l'auberge du Dominicain, tout attaché, .com. Et puis éventuellement, on peut vous joindre aussi par mail auberge-du-dominicain@wanadoo.fr. Vous restez avec nous parce que après le cassoulet, si on a encore un peu d'énergie, moi je vous propose une petite balade. Ben, on va rentrer dans le ventre un petit peu de la terre, puisqu'on va visiter les gouffres de Cabrespine et la grotte de Limousis. Et pour nous en parler, on a aujourd'hui Jean-Pierre Lauré. Donc vous êtes un petit peu le responsable, le meneur, le guide, on va dire. On peut dire comme ça.
Alors le guide, je le fais de moins en moins, mais je l'ai fait quand même. Il y a très longtemps que je fais des grottes, puisque j'ai commencé moi en 1973. Donc,
c'était hier, ça.
C'était hier,
avant-hier, on va dire.
Voilà. Voilà, mais sur le côté Aude, c'est depuis 21 ans qu'on exploite le gouffre de Cabrespine, donc j'ai été à l'origine de son aménagement, et puis dernièrement, donc depuis maintenant 5 ans ou 6 ans, on a repris l'exploitation de la grotte de Limousis. Alors on peut faire, pour continuer un petit peu sur le sujet, on peut parler peut-être 2 secondes de ce qu'on fait aussi dans la grotte, parce que les grottes, vous le savez, c'est un endroit qu'on peut visiter à n'importe quelle saison, puisque la température est toujours la même. Moi j'entends, c'est pas évident pour tout le monde, hein, parce que moi j'entends encore des touristes qui me disent, on arrive là, il fait un peu frais, ils nous disent, tiens, on viendra au printemps, il fera meilleur. En fait, il faut en profiter quand il fait mauvais pour aller dans les grottes.
Au contraire, c'est là qu'on est le mieux finalement.
Le monde souterrain ne bouge pas.
Il est constant.
Et il est constant, c'est constant. C'est 14 degrés et c'est très agréable en été parce qu'on a l'impression de fraîcheur, et puis c'est très agréable cette époque-ci où on a l'impression de chaleur.
Il fait meilleur.
Ouais, mais tout à fait.
Même à 14 degrés, surtout aujourd'hui.
Mais tout à fait. Et alors dans ces deux cavités qui sont la grotte de Limousis et puis le gouffre de Cabrespine, on fait quand même vieillir du vin aussi. Parce que ça se prête bien l'endroit pour vieillir du vin. Alors bien sûr, on n'en fait pas des quantités énormes, mais disons qu'on a sur Limousis les caves de Villalier et les caves de Conques qui font vieillir un du Minervois, l'autre du Cabardès. Et puis ça donne lieu à une journée au mois de juin, cette année je crois qu'elle aura lieu le 8 juin, à une journée où on fait le lancement de ce vin. Alors donc qui s'appelle la cuvée améthyste, et donc il y a un peu de tout là. Il y a la visite de la grotte bien sûr, mais il y a aussi des balades à pied, il y a un repas le soir. Enfin bon voilà.
Autour de cet événement.
Voilà, c'est un événement. Chaque année, on relance la cuvée améthyste pour Limousis. Et sur Cabrespine, eh bien il y a aussi une petite cuvée qui se fait, qui est faite par Vigneron et Passion. Et qui fonctionne très très bien, puisque je crois qu'elle est vendue même dans des endroits très prestigieux.
Oh, voilà. On décline la visite. Hein, finalement, on pense plutôt à faire une balade, et puis finalement, on fait un petit peu de nos tourismes, puisque c'est le terme consacré aujourd'hui. On en parle de plus en plus. Donc c'est une belle association finalement.
Eh ben, l'Ordre Pays Cathare, c'est un peu ça. Hein, c'est un renvoi vers tout ce qui peut se passer dans l'Aude pour garder les gens le plus longtemps possible.
À travers ce qu'on a à proposer, que ce soit dans la terre, à table.
Mais disons qu'il y a, pour moi, il y a des visites. Il y a la gastronomie, ça va de soi, parce que quand on mange bien, on a tendance à rester. Et puis, bien sûr, il y a les produits régionaux qu'on peut emporter à la maison et que ça fait plaisir de partager avec des amis. Donc, pour moi, tout ça, c'est l'Aude, quoi. Voilà. Et pour revenir sur comment je peux faire, je peux vous présenter peut-être
déjà la situation, et ensuite comment on s'y rend et quel circuit on peut faire en termes de découverte, puisque le principe, on est nous les locaux, on a tendance à connaître et à avoir déjà plus ou moins visité, à se dire bon voilà, on sait comment ça se passe, etc. Mais bon, des touristes qui viennent et qui reçoivent la plaquette se disent finalement qu'est-ce que je dois voir, j'ai peu de temps, qu'est-ce que je dois voir et comment je peux me balader sur Cabrespine et Limousis, j'allais dire sur, mais c'est plutôt sous.
Oui, on est en dessous de tout, non ?
Voilà.
Oui, alors, je dirais que ça se trouve au pied de la montagne Noire, hein. Donc sous le pic de Nord, on a les deux cavités. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Autour de nous, il y a beaucoup de choses à faire. Alors, je les survole comme ça, mais bon, quand tout est ouvert, on a les châteaux cathares de Lastours, on a le moulin à vin à Villeneuve-Minervois, on a l'abbaye de Cône, on a les grottes de Limousis et le gouffre de Cabrespine. Donc, il y a de quoi s'occuper, et puis, bien sûr, de la restauration autour aussi. Donc, il y a vraiment de quoi s'occuper. Alors, les Audois, eux, ils connaissent, comme vous dites, parce que je dois dire que quand le micro est ouvert, j'en profite toujours pour les remercier, parce que c'est grâce à eux que...
Profitez.
Oui, mais il faut les remercier, parce que c'est grâce aux Audois que Cabrespine a connu le succès qu'il a aujourd'hui. Aujourd'hui, Cabrespine est dans une moyenne de 90-92 000 visiteurs chaque année. Placé où il est, c'est pas évident, et donc, bien sûr, il y a le site est important, tout le monde le sait, mais il y a aussi les Audois qui sont nos ambassadeurs, et moi je vois des quantités de gens qui viennent nous voir avec les amis, avec les gens à qui ils louent leur gîte, etc., et qui nous les amènent directement, donc, ça nous fait très plaisir, quoi.
C'est vrai qu'on se dit, l'Aude, on décline toujours l'Aude, Carcassonne, la cité, bon, certes, oui. Mais bon, on n'a pas que ce fleuron-là, et c'est sûr qu'on est les mieux placés pour en parler, non seulement parce qu'on y vit, ou qu'on y est déjà allé, ou revenu, et qu'on y amène souvent la famille et les amis, parce que ce sont des sites remarquables, et qui drainent la plupart du temps d'autres activités annexes, telles que celles qu'on vient de décliner avec l'auberge du Dominicain. Donc, pour Cabrespine, est-ce qu'il y a des conditions particulières pour visiter le gouffre ou la grotte de Limousis ? Finalement, alors, tout le monde peut descendre et se balader.
En deux mots, le gouffre de Cabrespine, c'est un des... Je crois même que c'est le seul en France qui peut se visiter en totalité, même d'ailleurs puisqu'on est labellisé tourisme handicap, il peut se visiter en fauteuil roulant. Il y a 90%, même un peu plus, de la surface où les gens vont tout seuls en fauteuil roulant. Hein. Donc ça pose aucune difficulté. C'est vraiment un accès très facile.
100% d'accessibilité.
Voilà. Et il n'a pas que ce côté-là, parce que à partir du moment où on peut y aller avec un fauteuil roulant, ça veut dire aussi que pour tout ce qui est l'âge d'or, eh bien, ça facilite énormément les visites. Donc, ce qui fait que, par rapport à mes sites, puisque moi j'en ai plusieurs, par rapport à mes sites, Cabrespine est celui qui fait le plus de personnes âgées, disons, entre guillemets, parce que il y a une facilité d'accès qui est vraiment totale, quoi. Il y a pratiquement pas de marche, il y a 10 marches si on veut les faire vraiment, mais sinon tout le reste on peut le visiter à plat, vraiment à plat, avec un fauteuil roulant.
Et quant à la grotte, c'est peut-être un peu différent, ne serait-ce que par l'accès et puis par la visite en elle-même.
Voilà, alors ces deux sites sont labellisés, donc Cabrespine tourisme handicap, et puis après bien entendu qualité sud de France et hors de pays Qatar, ça va de soi, hein. Les deux sites ont hors de pays Qatar et donc et sud de France. Par contre, c'est vrai vrai que pour Limousis, eh bien, le handicapé en fauteuil roulant, lui, il pourra pas y aller. Ça, c'est sûr. C'est trop. Non, il y a beaucoup trop de difficultés.
Trop de difficultés.
Ce qui ne veut pas dire qu'il y a des grandes difficultés. Pour quelqu'un qui marche sur ses deux jambes, bien sûr, ça va tout seul. Hein. Mais bien sûr, quand on est en fauteuil roulant, ben, il ne faut pas qu'il y ait de marche, il faut que ça soit large, etc. Et ce n'est pas le cas de Limousis. Alors, la différence entre ces deux sites, eh bien, ça va être que Limousis, c'est une très longue balade qui se fait sur environ presque un kilomètre de long, avec, et qui se termine sur le fameux lustre que tous les Audois connaissent, puisque c'est vraiment l'endroit clé de Limousis. Et c'est une grotte qui est plus à l'échelle humaine, je dirais, parce qu'on est près des formations. Moi, je la conseille beaucoup aux écoles, parce que forcément, les enfants sont dans un monde un peu magique, ils passent d'une salle à l'autre, etc. Ça, c'est Limousis. Cabrespine, on va être dans le grandiose. C'est très différent et à la fois très complémentaire. On va être dans le grandiose, on rentre dans une salle, d'un premier coup d'œil, on va tout voir, et ensuite, eh bien, on va le détailler, en quelque sorte. Et là, on va se retrouver avec une salle qui est énorme, avec des concrétions très variées. Alors, ça va de la plus simple, que tout le monde connaît, stalactites, stalagmites, etc. Et puis, ça va vers les excentriques serpentiformes, ça va vers de l'aragonite, donc des choses beaucoup plus compliquées. Et puis, ce côté volumineux qui est absolument gigantesque.
Donc, une impression d'espace sous terre, finalement. C'est un petit peu deux mondes qui finissent par s'associer, puisqu'on se dit, on a toujours tendance à être un petit peu, j'allais dire, j'emploie le terme un peu vulgaire, mais claustrophobe, en se disant on est sous terre, ça va être sombre, encaissé, et finalement, au contraire, on se retrouve dans quelque chose de vaste, hein, dont on ne soupçonne pas que ça puisse être aussi profond.
Les deux grottes n'appellent pas beaucoup quand même à la claustrophobie, mais malgré tout, si quelqu'un est un peu claustrophobe, je conseille de faire plutôt Cabrespine, parce que là, que c'est pas étouffant ni l'une ni l'autre, mais enfin, quelqu'un qui aurait une sensibilité un peu prononcée sur la claustrophobie, il vaut mieux qu'il fasse Cabrespine, parce que là, les plafonds sont à 70 mètres de haut et le fond est à 250 mètres.
Donc on est large, il y a de la marge.
Il y a de la marge.
En termes de géologie, je vais pas y arriver.
Géologie.
Merci Didier. Qu'est-ce qu'on peut voir comme type de roche, comme dans les formations, vous nous les avez.
Mais les roches, ce sont des roches calcaires. Les grottes se fondent dans les terrains calcaires. Là où il y a une géologie intéressante aussi, c'est sur Cabrespine, parce qu'on arrive en bas de la montagne noire, on finit les schistes et on passe au contact des calcaires. Donc en fait, on a une coupure qui se voit très bien à l'extérieur pour les gens qui sont passionnés de géologie. Quand on descend dans la montagne noire, on est dans des schistes, et plus on va vers Cabrespine, jusqu'au milieu du village même, on trouve encore des schistes, puis des calcistes, et puis on arrive dans les calcaires. Et au bout de mon parking, on est dans des calcaires très durs. Voilà, donc géologiquement,
on est sur une transition géologique.
Tout à fait.
Est-ce qu'on peut, donc on a parlé de l'accessibilité aux handicapés. On peut visiter Cabrespine, j'allais dire de 7 à 77 ans, mais prêt pour reprendre l'expression. Mais est-ce qu'on peut amener des bébés, enfin notamment des bébés non, mais des petits?
Oui, on en laisse partir très peu au fond, quand même.
C'est pour ça que je le dis, j'avais entendu parler d'une légende, mais c'est pas le cas. Mais donc, plus sérieusement, accompagner, bien entendu, je pense que dès 3-4 ans, quand on commence à avoir une certaine sensibilité,
non, on peut... Il n'y a aucune difficulté, il n'y a vraiment aucune difficulté. Moi, j'ai des gens qui vont avec des poussettes. Hein, donc,
voilà, justement, l'accès on parlait de fauteuil roulant tout à l'heure. J'imaginais assez facilement. C'est important parce que des fois, on se dit, bon, ben, on fait quoi, des poussettes, est-ce qu'on peut les mettre sur un porteur, les enfants, bon, c'est quand même, mais bon, là, visiblement, on peut pratiquer en famille, vraiment, avec les enfants, les parents et éventuellement les grands-parents.
Et bien sûr, tout à fait, il y a beaucoup qui amènent les poussettes à l'intérieur, il n'y a pas de problème.
C'est ce que Jean-Paul dirait s'il était là, c'est-à-dire que les petits d'aujourd'hui sont les clients, ben finalement, les clients de demain, les touristes de demain, en ce qui concerne tout ce parcours qu'on fait à travers l'Aude et le Pays Cathare et l'association. Que dire de plus? On visite le gouffre et la grotte toute l'année?
Alors, le gouffre reste un peu plus ouvert que la grotte. La grotte a fermé le 30 novembre et elle réouvre le 1er mars. Le gouffre, lui, il est ouvert jusqu'au 10 décembre, et ce, en raison de nos amis catalans qui vont être en vacances là à la fin de la semaine, et qui pendant 4 jours vont venir nous visiter comme chaque année. Alors, au tout début, on ne le faisait pas, on arrêtait le 30 novembre, mais vu que la clientèle catalane a augmenté de façon très significative ces dernières années. On reste ouvert jusqu'au 10 et je dois dire que là, on va voir que, à partir, on va faire tout le week-end et 4 jours, là, on va voir que nos amis catalans qui vont être là. Alors, comme on a installé maintenant des systèmes interactifs qui leur permettent d'avoir la visite en leur langue, eh ben, ça reste ouvert et tout le monde peut y aller, bien sûr. Il y a aussi un français, bien sûr, mais voilà, on sait que ça va être la majorité de nos clients jusqu'au 10. Donc, on reste ouvert jusqu'au 10 décembre et on ouvre le premier jour des vacances de février.
Bon, ça fait des petits mini congés. En parlant de vacances, est-ce que vous accueillez, je suppose, on parlait des scolaires tout à l'heure, c'est quelque chose qui se visite aussi dans le cadre scolaire ou extrascolaire. Quel est le public le plus réceptif? On a tendance à penser que c'est les enfants, mais peut-être pas que.
Alors, les enfants, ils sont très réceptifs jusqu'à 12 ans.
Oui, après, bon.
Au-delà, bon, il y a une période un peu plus difficile.
Oui, on va dire. Même en tant que parent, c'est un petit peu compliqué à gérer, mais on oublie vite.
Ah bon.
Oui, mais tu verras. Tu comprendras. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on peut... Donc, c'est des visites guidées, je suppose. On rentre pas. On a toujours avec soi, j'imagine, quelqu'un qui peut quand même...
À Cabrespin, on a deux périodes. Cette période-ci, qui est une période donc dite creuse, on laisse les gens en libre, vu qu'ils risquent pas de détruire, vu que le plafond est très haut et que oui. Bon, voilà. Donc, il y a aucun souci. Et donc, ils ont une visite interactive où ils interrogent eux-mêmes les bornes et en même temps qu'ils interrogent, ça leur met les lumières sur le sujet qu'ils sont en train d'écouter l'explication.
Donc, chacun peut se faire un peu sa vie à la carte.
Et puis, c'est surtout avantageux pour nos amis étrangers, puisqu'on a la visite en 7 langues.
7 langues?
Oui.
Avec ça, si on en loupe.
On en loupe encore.
Puisque en fait, 7 langues, quand même, c'est assez remarquable. Les horaires d'ouverture en journée?
Eh bien, on ouvre de 10h à midi et de 14h à 18h, et en été, on ouvre non-stop. Hein, on va jusqu'à 18h non-stop.
Week-end compris, je suppose.
Oui, il n'y a pas de jour de fermeture. Nous, on ouvre et on ferme. On a un jour d'ouverture et un jour de fermeture, et c'est fini. Après, tout le reste du temps, on est ouvert.
D'accord. Bon, avec ça, si on passe à côté, si on se dit non, c'était fermé. Non, ce n'est pas possible.
Non,
ce n'était pas fermé.
Ça n'est pas possible.
Ça n'est pas possible. Des coordonnées?
Les coordonnées, le site internet, peut-être. Ça sera plus simple pour avoir toutes les informations. Donc, c'est 3fw.grotte-2-france.com.
Directement. Donc, on a listé, notamment dans toutes les grottes de France, forcément Cabrespin.
Voilà, il y a un téléphone, si vous voulez. Oui, c'est le 04 68 26 14 22.
Bon, toutes ces informations, de toute façon, on les retrouve, nous, sur le site de la radio. Je vous laisse encore la parole, mais ne vous inquiétez pas si je vous la coupe. vous le verrez. Je vous écoute.
Juste, je voulais rajouter qu'il existe une deuxième visite dans Cabrespin seulement, qui est la visite de safari, appelée comme ça, quoi, qui permet à des gens qui n'ont pas fait de spéléo, parce qu'il ne s'agit pas de faire de la spéléo, la découverte et tout ce qui est attrait à la spéléo, on le laisse au spéléo club de l'Aude, qui protège du reste cette grotte merveilleusement et qui l'ont agrandi de beaucoup, puisqu'on va atteindre maintenant en galerie développée et en galerie topographiée, on va avoir bientôt 19 km de galerie, je crois. Donc c'est énorme, donc nous on voit une salle parmi un réseau qui est énorme et qui est donc la gestion se fait par le Spéléo Club de l'Aude, ils font ça très bien. Mais en dehors de ça, nous on occupe encore une petite partie où on permet aux gens de descendre dans la partie profonde de la grotte, sur rendez-vous bien entendu, et on les amène pendant 4 heures dans la partie non aménagée. Voilà. Donc ils vont marcher un peu dans la rivière, ils vont se mouiller les pieds, ils vont voir la grotte avec une lampe... acétylène au début, maintenant on n'utilise plus acétylène, on utilise bien sûr les LED, mais voilà, ils vont voir la grotte autrement.
Là, on est un
c'est une
peu
petite
plus
quantité
le...
de gens qui font ça, mais pour ceux qui le font, ils en emportent toujours un souvenir très agréable.
À propos de souvenirs, quel type de souvenirs on peut ramener de Cabrespin? Je pense notamment, est-ce qu'on peut filmer, est-ce qu'on peut photographier, ou est-ce qu'il y a des contraintes géologiques qui font qu'on ne doit pas abîmer
Pas du tout. Ces contraintes, on les a connues il y a des années, on en parlait beaucoup et on confondait surtout, parce que là où on avait des difficultés, c'est que c'est sur les grottes préhistoire, c'est-à-dire celles qui ont des peintures. Donc là, il est difficile, si par exemple un peu de mousse venait à s'installer, un peu de végétaux venait à s'installer sur ces peintures, on a difficulté à les enlever, on détruit l'œuvre en quelque sorte. Alors que dans les grottes naturelles comme nous, il y a aucun souci.
Donc on peut facilement filmer ou photographier.
Ah oui,
c'est
même conseillé.
C'est même vivement conseillé. On peut pas tout retenir, on peut pas le transcrire.
Nous on interdit que les photos ratées, donc il y a pas de.
D'accord. Donc le message est passé. Je reviens vers l'auberge du Dominicain, puisque je vois que finalement on est un peu large dans le temps. On avait un peu peur tout à l'heure. Je voulais savoir si autour de l'auberge, sur Montréal, qu'est-ce qu'on pouvait visiter, qu'est-ce qu'on pouvait faire comme balade juste à la sortie du restaurant.
C'est une bonne question parce que le gouffre de Cabrespine est un peu éloigné, je le connais pour l'avoir visité, il est un peu éloigné de Montréal, donc les suggestions que l'on peut faire à nos clients, c'est pas spécialement le gouffre de Cabrespine.
Pas directement.
Voilà, donc plus près nous avons le moulin à papier de Brousse, l'abbaye de Saint-Papoul, la collégiale de Montréal quand même, elle existe aussi. Puis ensuite, des caveaux de vin.
Oui, parce que ça fait partie du tourisme, c'est vrai que oui, les caves se visitent, la dégustation fait partie du tourisme.
Et puis, ne pas oublier que nous sommes à 5 km du canal du Midi et à 17 de la cité de Carcassonne, qui sont au patrimoine mondial de l'UNESCO. J'aurais voulu ajouter, puisque Jean-Pierre Lauré a parlé au nom du gouffre de Cabrespine de l'accessibilité aux handicapés. Je précise que l'auberge du Dominicain est également labellisée tourisme et handicap sur le label national. Nous avons également la qualité Sud de France et qualité tourisme. Voilà, je voulais le rajouter, ça ne changera rien.
Si je peux parler juste en auditrice, si, ça change beaucoup de choses, voire tout. Mais écoutez, on a quand même, je pense, fait un petit tour du côté du Lauragais pour la table et du côté de Cabrespine, Montagne Noire. On peut dire la Montagne Noire pour la balade. Donc moi je vais simplement rappeler vos coordonnées pour l'auberge du Dominicain, 14 avenue du Lauragais à Montréal, 04 68 76 31 10, avec un site internet www.aubergedudominicain.com ou par mail auberge-du-dominicain@wanadoo.fr. Et c'est monsieur Lauré qui va rappeler les coordonnées du gouffre, parce que en papier je les ai pas. Et j'ai pas bonne mémoire aujourd'hui.
Alors le téléphone 04 68 26 14 22 et le site internet www.grotte-2-france.com.
Je vous remercie tous les trois d'avoir bien voulu participer à cette émission. On vous retrouve donc André pour la remise de la plaque de l'auberge de la Garrigue demain.
Vendredi prochain, 10 décembre, à partir de 18h à Saint-Pierre-sur-Mer.
Et présent sur le marché de Noël de Montréal dimanche.
Et l'auberge sera présente sur le marché de Noël de Montréal dimanche avec de nombreuses animations, des clowns, un animateur commercial, le groupe folklorique, les majorettes. Je pense qu'on va passer une agréable journée si la neige nous fait grâce.
Bon, là, ça s'est arrêté sur Marseillette en tout cas, ça s'est arrêté. Je ne sais pas, peut-être que le nuage a continué sur l'est. On vous retrouve, Jean-Pierre Lauré, quand on veut finalement, sur Cabrespine ou sur Limousis. Je vous remercie tous les trois d'être intervenus. Barbara, merci beaucoup. On vous rend à vos fourneaux. On passe un petit peu de pub. On se retrouve tout de suite après pour l'agenda culturel des campagnes. Merci à tous.
Merci.
Merci.